Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une sélection de textes tirés des médias suivants. Reader's Digest, Urbania et Bel Age. Au programme, comment apaiser l'anxiété? Est-ce que le sommeil a le dos trop large? Et trois façons de combattre les blues de l'hiver. Bonne écoute!
Comment apaiser l'anxiété? Un texte de Rebecca Phelps avec la collaboration de Lucy Uppritchard et de Jeanne Moncada, paru le 25 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Nous sommes tous sujets à des crises d'inquiétude. Comment savoir si le problème est grave et s'il faut se faire aider? Voici comment apaiser l'anxiété. Il y a 8 ans, victime de pensées obsédantes, d'apathie et d'insomnie, Sue Thomas a compris qu'elle ne s'en sortirait pas sans aide. À 66 ans, elle était fonctionnaire au NHS, le service de la santé publique britannique, dans le sud de l'Angleterre. Pour remédier à ce qu'elle prenait pour une dépression, elle a fait appel à différentes techniques comme les thérapies comportementales et cognitives, TCC. C'est ainsi qu'on lui a diagnostiqué un trouble anxieux. En mettant un nom sur le tourbillon d'émotions qui l'assaillait, elle s'est rendue compte qu'elle tentait l'impossible pour dissimuler ses symptômes, surtout au travail. Hantée par la peur de ne pas être à la hauteur, « je m'arrangeais pour faire bonne figure », explique-t-elle. « Pour ça, oui, je mériterais un prix. » Son expérience et ses compétences n'empêchaient pas Sue de douter de la qualité de son travail. Le soir, son esprit s'emballait, elle ne pouvait se reposer. Le jour, des pensées négatives la hantaient, accompagnées de nombreux symptômes comme les nausées et les acouphènes. « Je découvrais la nature très physique de l'anxiété », reconnaît-elle. Ce sont souvent ces manifestations corporelles des émotions qui convainquent les patients qu'ils ont besoin d'aide. Sue est l'une des quelques 300 millions de personnes dans le monde victimes de troubles anxieux. L'anxiété touche chacun de nous à des degrés variables. Elle est le plus souvent intermittente et surgit après un événement stressant ou traumatique. Elle peut aussi survenir dans des situations quotidiennes et sans risque. Cette forme d'anxiété est pathologique. L'anxiété chronique mine l'organisme. L'anxiété fait partie de notre système de réaction au stress. Il s'agit d'une réponse émotionnelle à une menace anticipée. Autrement dit, nous craignons qu'il nous arrive quelque chose. Parfois, des éléments tangibles nous le font croire. Parfois, il n'y en a pas. Lorsqu'une crise se manifeste, elle s'accompagne souvent de nombreux signes physiques, note le docteur Olivier Dubois, psychiatre directeur du Centre thermal et des cliniques de Saujon et de l'École thermale du stress. Le système nerveux sympathique, responsable des fonctions involontaires comme la respiration et les battements du cœur, se met en état d'alerte maximale. Les glandes surrénales libèrent de l'adrénaline et du cortisol, deux hormones qui activent la réponse au stress. Le rythme cardiaque augmente, la tension artérielle s'élève, les pupilles se dilatent, le souffle est plus court et la peau moite. En parallèle, le cortisol met en sommeil les fonctions que le cerveau ne juge pas essentielles à la survie. Il module les réponses du système immunitaire et inhibe les mécanismes physiologiques de la digestion, de la reproduction et de la croissance afin de conserver toute son énergie pour faire face aux risques. Tout cela était utile à nos ancêtres qui devaient échapper aux prédateurs, mais beaucoup moins quand votre angoisse est due à la crainte d'être contaminé par le client qui tousse derrière vous au supermarché. Dans ces crises, l'anticipation du risque joue un rôle majeur, ajoute le docteur Dubois. Une situation vous paraîtra menaçante, même si elle ne l'est pas, et vous déploierez des trésors d'imagination pour y échapper. Vous serez obsédé par des stratégies d'évitement ou par des plans de fuite. Vous serez indécis par crainte de prendre la mauvaise décision, ou au contraire agité, remonté, incapable de vous détendre. Normalement, ces symptômes s'apaisent dès que la situation qui vous met en émoi s'éloigne. Ainsi, si l'idée de prendre l'avion vous rend nerveux, ce sentiment se dissipe aussitôt que les roues se posent sur la piste. L'anxiété peut néanmoins devenir chronique et se transformer en trouble anxieux généralisé, TAG, trouble panique, trouble obsessionnel compulsif, TOC, syndrome de stress post-traumatique ou phobie. La différence entre l'anxiété circonstancielle déclenchée par un facteur de stress transitoire et l'anxiété relevant du trouble anxieux n'est pas toujours évidente. Il est normal de se sentir anxieux, mais quand l'anxiété envahit au quotidien et vous empêche de profiter de la vie, il est important de demander de l'aide. Si, par exemple, vous avez tellement peur de l'avion que vous ne partez plus en vacances, il est temps de consulter. Il en va de même si vous constatez que l'anxiété dure au-delà de la résolution du problème et qu'elle semble même augmenter d'une fois à l'autre. Traiter l'anxiété quand elle persiste. Il existe des traitements efficaces de l'anxiété, qu'ils soient médicamenteux ou psychothérapiques. Plutôt que de se soigner, de nombreux patients vont tenter de soit de dominer leur anxiété, soit de la fuir, indique le docteur Dubois. Mais en essayant de neutraliser l'anxiété, vous risquez plutôt de lui faire toute la place dans vos pensées, et en la fuyant, vous ne réglez rien. Voici quelques conseils pour réduire les effets négatifs de l'anxiété. L'accepter. Admettre que l'anxiété fait partie de la vie de chacun permet de l'accueillir avec une certaine bienveillance, voire avec humour. C'est la pierre angulaire de la thérapie d'acceptation et d'engagement, ACT. Cette forme de TCC repose sur deux concepts clés. Accepter ce qu'on ne peut pas contrôler et s'engager dans une action qui enrichit notre vie. Les praticiens encouragent ainsi les patients à entreprendre un dialogue avec leurs pensées anxieuses, à se pencher sur leurs causes et à ne pas perdre de vue leurs objectifs de vie et leurs valeurs personnelles. Le patient prisonnier de ses angoisses apprend peu à peu à redevenir maître de son existence et de ses actions. Poursuivons la lecture du texte « Comment apaiser l'anxiété ». Un texte de Rebecca Phelps avec la collaboration de Lucy O'Pritchard et de Jeanne Moncada, paru le 25 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest. Se montrer curieux. Parallèlement à l'acceptation, il est bon de prendre pleine conscience de son anxiété, surtout si des idées envahissantes empêchent de penser rationnellement. Un moyen efficace consiste à porter son attention sur les sensations corporelles, les pensées et les émotions consécutives à notre anxiété. Observer et nommer les sensations physiques. Je rougis, j'ai la respiration courte, mon cœur bat plus vite, est alors déjà une première étape dans l'affranchissement des réactions anxieuses. Il existe de nombreuses applications numériques pour s'entraîner à la pleine conscience. Elles aident à mieux vivre les manifestations de l'anxiété. Pratiquez-la quotidiennement et ainsi vous serez mieux préparé à affronter les crises. C'est en étant plus consciente des effets de l'anxiété dans sa vie que Sue Thomas a pu reconnaître le mouvement envahissant des inquiétudes et des pensées obsédantes. Quand cela se produit, plutôt que d'être pétrifié par le stress ou de surcharger son esprit de pensées au point de ne plus pouvoir se concentrer, elle prend du recul et se recentre sur le moment présent. Adapter son mode de vie. La fatigue et l'augmentation du stress nous rendent plus vulnérables à l'anxiété. Un régime équilibré, un sommeil réparateur et, par-dessus tout, la pratique sportive aide à y faire face. Une étude a montré qu'un entraînement régulier et vigoureux réduisait de 25 % le risque de troubles anxieux au cours des 5 années suivantes. La marche nordique est une technique efficace pour redonner du dynamisme, ajoute le docteur Dubois. Elle stimule la fabrication d'endorphines par le cerveau et contribue à un sentiment de bien-être. Privilégier un entourage bienveillant. L'affection protège des effets du stress, écrit le docteur Philippe Rodet, médecin urgentiste français et auteur de nombreux ouvrages sur la bienveillance. L'explication est simple. Il existe une relation inverse entre le taux d'ocytocine dans le sang, hormone du bonheur, et le cortisol, hormone du stress. Une étude menée en Suisse par l'équipe du professeur Beat Ditson de l'Université de Zurich conclut que plus le taux d'ocytocine est élevé, plus celui de cortisol est bas, dit le médecin. L'équipe suisse a également montré que chez les sujets qui reçoivent beaucoup d'affection, le taux de cortisol diminue. Tenter une cure thermale. Plusieurs centres thermaux ont mis au point des cures pour les patients souffrant d'un trouble anxieux généralisé, TAG. Ces cures reposent à la fois sur la présence de certains oligo-éléments comme le magnésium ou le lithium dans l'eau thermale, mais aussi et surtout sur la prise en charge et l'accompagnement pendant la cure, sport, alimentation, repos, atelier. La cure en elle-même est bénéfique pour le sommeil, explique le docteur Dubois. Cela aide à rompre le cercle vicieux insomnie, fatigue, anxiété. Les curistes apprennent également de nombreuses techniques pour se réapproprier leur corps et leurs sensations, relaxation, méditation. Pendant 3 semaines, le patient va lâcher prise, souligne le psychiatre. Son processus d'auto-alimentation du stress chronique se bloque suffisamment longtemps pour que les crises ne redémarrent pas quand il rentre chez lui. Sue Thomas prend un traitement pharmacologique pour mieux maîtriser son anxiété et ses douleurs chroniques. En plus de pratiquer la pleine conscience et la méditation, elle suit des cours de peinture et de dessin. Elle administre par ailleurs une plateforme où les membres partagent leurs expériences et se soutiennent en période de stress. Cet esprit de solidarité couplé aux techniques d'ACT mentionnées plus haut ont contribué à sa guérison. L'anxiété a cessé de prendre le dessus, se félicite-t-elle. Il m'arrive encore d'en éprouver, mais ça va, ça fait partie de moi. La médication peut aider. En raison de la stigmatisation des psychotropes, beaucoup écartent l'idée de prendre un médicament contre l'anxiété. Ceux qui en souffrent craignent parfois l'accoutumance ou d'être jugés faibles ou handicapés. En réalité, les traitements pharmacologiques des troubles de l'anxiété proposés aujourd'hui sont plus sûrs et ont moins d'effets secondaires qu'il y a 30 ans. L'attitude face à la maladie mentale a également évolué. Une étude publiée en 2013 dans The British Journal of Psychiatry a révélé que près de 80 % des adultes jugeaient la maladie mentale comme un problème de santé comme les autres et 85 % considéraient important de lutter contre sa stigmatisation. Si vous envisagez la médication, votre médecin pourra vous prescrire celle qui est le mieux adaptée à votre situation. Les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, ISRS, sont de bons médicaments pour démarrer un traitement contre de nombreuses formes d'anxiété. La sérotonine est un neurotransmetteur qui intervient dans le sentiment de bien-être et de bonheur, en plus d'agir sur la pensée, la mémoire, le sommeil, la digestion et la circulation. Les ISRS élèvent le niveau de sérotonine dans le cerveau et, en plus d'être sûr, leur usage à long terme n'entraîne pas de dépendance. À plus court terme, on envisagera les benzodiazépines comme le Xanax, qui potentialise l'effet du GABA, un neurotransmetteur inhibiteur, autrement dit qui freine la transmission des signaux nerveux. Les benzodiazépines agissent rapidement et ne restent pas longtemps dans l'organisme. Ils peuvent cependant créer une dépendance et sont considérés comme dangereux dans un usage continu. Pour Jean Lally, psychothérapeute à Édimbourg, en Écosse, les médicaments associés à une thérapie sont une bonne approche de soins, surtout chez les personnes qui souffrent d'une forme d'anxiété plus grave. Pour entreprendre une thérapie, il faut une bonne santé cognitive et la médication aide à l'entretenir, explique-t-elle. Elle soulage des symptômes et accroît la concentration. Les deux fonctionnent très bien ensemble. C'était « Comment apaiser l'anxiété », un texte de Rebecca Phillips avec la collaboration de Lucy Oprichard et de Jeanne Moncada, paru le 25 août 2022 dans le magazine Sélection du Reader Digest.
Est-ce que le sommeil a le dos trop large? Un texte de Justine Leblond, paru le 9 février 2023 dans Urbania. Ah, le sommeil! Cette bête noire du soir, parfois source de stress, notamment quand tu programmes un réveil sur ton téléphone et qu'il te dit combien d'heures tu vas pouvoir dormir avant qu'il ne sonne. Personnellement, ça détermine beaucoup la façon dont je m'endors. J'ai 9 heures devant moi. Tranquille. Déjà plus que 6 heures, il faut que je m'endorme vite. Et puis le lendemain matin, tu arrives au travail avec des cernes, alors que ton collègue se vante d'avoir dormi 8 heures, comme toutes ces autres nuits, parce que le sommeil, c'est important. Ben justement, est-ce que c'est si important? Évidemment, le sommeil, c'est vital, mais est-ce le remède à tout? Dormir autant, ça peut augmenter les risques d'obésité, de diabète, de stress, d'anxiété ou encore de dépression. C'est plus compliqué que ça, nous explique le docteur Jonathan Bruyette, chercheur au département de physiologie, pharmacologie de l'Université de Montréal et membre affilié du CEAM, le Centre d'études avancées en médecine du sommeil. Si la question est « est-ce que le sommeil va régler tous les problèmes? », la réponse est non. Depuis le début de la pandémie, les recherches du type 5 technique pour dormir rapidement n'ont fait qu'augmenter. Plutôt une bonne chose, d'après Jonathan Bruyette, parce que le sommeil peut parfois être perçu comme une perte de temps alors qu'il est essentiel. Attention cependant à ne pas trop dormir. Curieusement, on a tendance à penser qu'il est bon de passer 12 heures dans son lit. Détrompons-nous. Si les nuits trop longues sont régulières, ce n'est pas sans conséquence. Dormir autant, ça peut augmenter les risques d'obésité, de diabète, de stress, d'anxiété ou encore de dépression, détaille le docteur Jonathan Bruyette. Privilégier la régularité. L'essentiel, c'est d'avoir un rythme et un cycle de sommeil. Pour un adulte entre 18 et 64 ans, il est recommandé de dormir 7 à 9 heures par nuit. Après, évidemment, il y a des variations. C'est très personnel. On n'est pas tous égaux face au sommeil et certains en ont plus besoin que d'autres. L'important, c'est de se lever le matin et de se sentir bien, productif, pas irritable. Ça, c'est le signe d'une bonne nuit, souligne Jonathan Brouillette. On ne s'imagine pas toutes les variantes sur lesquelles le sommeil a un rôle. Pas d'inquiétude si vous faites une nuit blanche, tant que ce n'est pas trop régulier et que vous récupérez derrière. Le corps va s'en remettre, surtout si on dort un peu plus le lendemain. Là où ça devient plus compliqué, c'est si on ne dort pas pendant plusieurs nuits d'affilée ou très peu. D'après le spécialiste du sommeil, cela peut entraîner des problèmes de métabolisme. Plus de risques de diabète, d'obésité, de diminution du système immunitaire. En bref, une nuit blanche, une fois, ça va. Mais le sommeil, c'est sur le long terme que ça se joue. Et on ne s'imagine pas toutes les variantes sur lesquelles il a un rôle. Les travaux du docteur Jonathan Brouillette s'intéressent principalement aux déficits de mémoire qui surviennent avec l'âge et aux causes de la maladie d'Alzheimer. C'est dans ce cadre qu'il étudie le sommeil. Le sommeil affecte une protéine qui s'appelle bêta-amyloïde. On travaille sur son influence bidirectionnelle entre le sommeil et l'Alzheimer. Cette influence n'est qu'un exemple parmi beaucoup, car on ne connaît pas le nombre total de liens et d'impacts qu'a le sommeil sur toutes les zones du cerveau et du corps. Pas un remède miracle. En fait, tout est question d'équilibre. Le sommeil, c'est une balance, comme le fait de manger. Manger trop, c'est pas bon, on se ramasse avec des problèmes de cœur, de cholestérol, etc. Il faut voir ça dans son ensemble, car le sommeil n'est pas un remède miracle, mais ça fait partie d'une bonne hygiène et d'une bonne santé, autant sur le plan physique que mental. C'est incorporé à un tout, et ça peut facilement avoir des répercussions sur la santé physique et mentale d'une personne. Donc, dormir, c'est important, à condition que ce ne soit ni trop, ni pas assez, et que ça s'inscrive dans une bonne hygiène de vie globale. C'était « Est-ce que le sommeil a le dos trop large ?» un texte de Justine Leblon, paru le 9 février 2023 dans Urbania.
Façon de combattre les blues de l'hiver. Un texte de Ève Martel, paru dans la revue Bel Âge. Si nous ne les attendons pas de pied ferme, les blues hivernaux peuvent nous faire passer un mauvais quart d'heure. Préparons-nous à leur faire face. L'arrivée de la noirceur et du froid hivernal a souvent un impact sur notre qualité de vie. Certaines personnes auront le sommeil agité, alors que d'autres peineront à se lever. Il n'est pas rare de ressentir de l'anxiété, voire une tristesse profonde et inexpliquée. Cette émotion nous prend soudainement de court. Elle débarque au changement d'heure et ne nous quitte pas avant des mois. Elle nous tire par la manche et ralentit nos journées. Qu'il provoque de petits irritants ou des troubles plus handicapants, disons adieu aux blues hivernaux, et vite à part ça. Sur une note perso, c'est vraiment le manque de clarté qui m'assomme le plus. J'y ai remédié en installant sur mon bureau une lampe de luminothérapie que j'allume pendant 30 minutes chaque jour. En plus de mes promenades matinales, ces bains de lumière me permettent de rééquilibrer mon humeur et de la tourner vers le positif. Que faire d'autre pour traverser la saison froide sans que les idées noires nous envahissent? Voici quelques suggestions. poser des gestes santé. Plus que jamais, l'hiver est un moment où nous devons agir en toute conscience pour prendre soin de notre santé physique et mentale. Commençons par bien manger en équilibrant les aliments nutritifs et les petits plaisirs de la vie. Se coucher à une heure raisonnable et éviter le stress nous aidera aussi immensément. Dans certains cas, absorber un supplément de vitamine D pourrait aider à réduire la fatigue et à être plus allumé. Notre médecin de famille ou notre pharmacien seront de bons conseils à ce sujet. Établir une routine du soir. L'hiver est parfait pour créer de nouveaux rituels réconfortants. Et ces derniers sont particulièrement bénéfiques pour terminer la journée en réduisant les tensions. Surtout quand il fait noir à 16 heures. Allumer quelques bougies blanches adoucit l'ambiance, lire un roman en buvant une tisane ou écouter une balado en préparant le repas du soir. L'idée est de vivre plus lentement. Bien s'entourer. La période la plus maussade arrive fréquemment après les fêtes, alors que nous venons de célébrer avec les nôtres et que les semaines à venir s'annoncent plus tranquilles. Les trottoirs glacés et les bordées de neige peuvent aussi contribuer à notre isolement si notre mobilité est réduite. Alors, prenons le temps nécessaire pour organiser des visites. Si nous craignons de sortir sans aide, s'inscrire à un cours, rencontrer de nouvelles personnes ou tout simplement pour planifier un appel familial en vidéoconférence. Un peu de chaleur humaine aidera à nous faire croire au printemps. Cet hiver, je garde le moral en optimisant ma santé, en répétant certains rituels, en m'entourant de mes proches. Vous venez d'entendre 3 façons de combattre les blues de l'hiver, un texte de Ève Martel paru dans la revue Bel Âge.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.visivoire.com. Cette émission est rendue possible grâce à Robert Chartier et Gilbert Lepage à la lecture, Diane Métayer à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.